on a des trésors à trouver dans le travail des anarchistes.
L'anarchie, c'est plus lutter contre les dominations.
C'est une morale, c'est une façon de concevoir la vie. C'est...
Quand on a un mot qui est beau et qui a une histoire aussi belle, faut pas s'en priver.
Alternative, autogestion, autonomie, anarchie. Histoire d'A, le podcast des émancipations. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Histoire d'A. Je me retrouve dans une petite cour derrière une porte cochère dans Paris et j'accueille Normand Baillargeon. Comme vous allez l'entendre, c'est un cousin du Québec. Normand, tu es philosophe de l'éducation et je te reçois parce que tu as sorti la nouvelle édition de Que sais-je sur l'anarchisme. Bonjour Normand déjà.
Oui bonjour, très heureux d'être là, très heureux d'échanger avec toi.
Eh bien je voulais savoir qu'est-ce qui t'avait amené à écrire ce livre et comment tu avais pensé ce livre dans son articulation.
Alors l'origine du livre, c'est la collection Que sais-je qui m'a contacté pour me demander d'écrire un Que sais-je. Il y avait un Que sais-je excellent sur l'anarchiste, Avron, Henri Avron, et ça datait des années 50 ou 60 si je ne me trompe pas, donc c'était déjà relativement ancien, mais c'était un très bon livre que j'avais lu. Moi, je suis un grand amoureux de la collection Que sais-je. Je les collectionne depuis que je suis très jeune et puis j'adore ça. Donc, j'ai accepté de le faire volontiers. Et là, il s'agissait de ne pas refaire l'ordre moins de pouvoir qui avait déjà été écrit et de le mettre à jour aussi parce que celui-là aussi est déjà très ancien. Donc, j'ai essayé de penser à une architecture différente et j'ai choisi de l'aborder par thématique, alors les grands sujets, en essayant de distinguer des sujets sur lesquels il y a plutôt une continuité puis des sujets sur lesquels il y a plutôt des remises en question ou des ruptures, d'essayer de penser l'avenir de l'anarchisme à partir de tout cela. Donc, c'est ce que j'ai voulu faire. L'anarchisme s'est beaucoup renouvelé et de plus en plus présent, d'une certaine manière, dans les débats publics, dans le monde des idées, dans le monde militant. Et j'ai donc voulu rendre compte de ces transformations-là qui apparaissent à peu près depuis mai 68, disons.
Alors, justement, je voudrais... Peut-être partons directement là-dessus, sur cette histoire de renouveau. Parce que moi, j'ai l'impression effectivement d'entendre de plus en plus parler de la pensée anarchiste dans les médias. Alors, je questionne ça parce que moi, j'ai l'impression d'être plus en plus attentif à ça. Donc, je me dis que c'est peut-être moi qui ai changé mon regard. Donc, quand tu dis ça, je me dis, ah bon, bah, je ne suis pas le seul à le penser. Mais est-ce que toi, par exemple, c'est une question qui est vraiment très visible au Québec, par exemple?
Au Québec, oui, ça l'est visible, c'est présent. Encore une fois, on a vu revenir l'anarchisme dans le monde des idées, à l'université, chez les auteurs, chez les gens qui écrivent là-dessus, sur le sujet politique, on a vu ça revenir. Et depuis 20 ou 30 ans, dans le monde militant, dans l'action militante, dans les groupes militants, c'est très, très présent. Et ce qui est frappant aussi, c'est que certaines idées anarchistes qui étaient présentes dans le mouvement depuis très longtemps sont reprises parfois même par d'autres que les anarchistes. On donnera des exemples tout à l'heure. Je pense à l'éducation, par exemple. Les anarchistes ont proposé des choses en éducation qui reviennent aujourd'hui sous différents aspects. Sous des gens qui parfois savent même pas que c'est l'anarchiste qui a initié ça, mais on s'aperçoit que c'est ça. Donc, c'est de plus en plus présent. Je pense qu'on ne va pas le craindre. Il y a des facteurs aussi qui expliquent ça, qui me semblent intéressants à noter. C'est que, je vais en nommer seulement deux, trois, mais il y a des intellectuels imminents et importants qui se réclament de l'anarchisme. Alors, le cas le plus frappant, c'est probablement Noam Chomsky, le linguiste et philosophe américain, qui depuis toujours dit « je suis anarchiste ». Il le disait dans les années 50, dans les années 60, à l'époque où c'était déjà beaucoup moins populaire. Il a toujours maintenu cette position-là, il la maintient encore aujourd'hui. L'autre exemple, c'est probablement Murray Bookchin en écologie. Donc, il y a des gens qui sont des intellectuels majeurs et qui se réclament de l'anarchisme.
Et d'ailleurs, on pourrait peut-être commencer par une citation de Noam Chomsky qui était dans « L'ordre moins le pouvoir ». Ben, je vais peut-être te le faire lire d'ailleurs, c'est la citation en bas là.
Ah oui. L'anarchisme est cette tendance présente dans toute l'histoire de la pensée et de l'agir humain qui nous incite à vouloir identifier les structures coercitives, autoritaires et hiérarchiques de toutes sortes pour les examiner et mettre à l'épreuve leur légitimité. Lorsqu'il arrive que ces structures ne peuvent se justifier, ce qui est le plus souvent le cas, l'anarchisme nous porte à chercher à les éliminer et à ainsi élargir l'espace de la liberté. Je trouve que c'est une très belle phrase, ça définit bien. Je pense que je commence mon livre sur l'anarchisme avec un peu cette idée-là. Il y a une espèce de tendance pérenne chez l'être humain à contester les formes illégitimes d'autorité. On n'est pas content quand on veut nous imposer des choses, on a le sentiment que ça n'a pas d'allure. Donc, on vise à le contester. Cette espèce de tendance-là est à la source de l'anarchisme, mais c'est présent en général chez les êtres humains. On n'aime pas se faire imposer des ordres. Au Québec, on dirait qu'on n'aime pas se faire donner des ordres. On n'aime pas se faire rabrouer. On n'aime pas. Et là, on se demande si c'est légitime. Lorsque c'est légitime, ça va. Mais lorsque c'est pas légitime, ça va pas. Et ce que j'aimerais dire aussi là-dessus, c'est qu'il y a un aspect Et ça, c'est une pensée qui est propre à moi, Normand Baillargeon, le résolument rationaliste dans l'anarchisme. Parce qu'il faut justifier qu'on considère que c'est illégitime. Et on doit donner des raisons pour lesquelles c'est illégitime. Et donc, il y a aussi dans l'anarchisme, entre autres tendances, cette tendance rationaliste que Chomsky illustre très bien, d'ailleurs.
On ne conteste pas l'autorité juste pour la contester. C'est pas... Eh bien, justement, partons sur ces permanences. Et puis, tu en as cité la première et qui, moi, me semble effectivement... Peut-être la plus intéressante, c'est la question de l'éducation. D'abord, parce que c'est ton domaine vraiment de passion, peut-être. Je ne sais pas si c'est le bon mot, mais...
Moi j'aurais finalement... Je vais rentrer sur une tonalité un peu plus personnelle, mais j'ai passé ma vie à réfléchir sur l'éducation et à écrire sur l'éducation. C'est mon domaine principal. Je pourrais me définir, je suis un essayiste qui écrit sur toutes sortes de sujets, mais je suis un philosophe de l'éducation au point de départ. C'est le sujet sur lequel j'ai écrit le plus. Et les anarchistes, je pense, ont apporté des choses extrêmement importantes en éducation. C'est une longue tradition chez eux de réfléchir à l'éducation. Et on comprend pourquoi, d'une certaine manière, je crois que tu vas m'accorder ça, l'éducation peut être considérée comme la plus importante institution d'une société. Si on veut, dans une société, avoir de bons médecins, il faut qu'ils soient formés par un bon système d'éducation. Si on veut avoir des citoyens, il faut qu'ils soient préparés. Si on veut avoir des gens qui sont lucides, il faut avoir préparé. Donc, l'éducation est une institution d'une immense importance, vitale, probablement au fondement de toutes les autres, ou à peu près. Et les anarchistes, très tôt, se sont intéressés à ça. Et on comprend bien pourquoi. Il y a plusieurs aspects là-dedans. Si tu veux que j'arrête de parler, tu me le diras, mais je continue. Mais il y a un de ces aspects-là, c'est qu'on prépare les gens à vivre une vie autonome par l'éducation. Alors, le mode d'éducation traditionnel leur semblait un mode dangereux, propagandiste, endoctrinaire, qui fermait l'esprit au lieu de l'ouvrir. Alors, ils ont cherché des moyens de pallier à ça et ils se sont même inventé des formes nouvelles d'école ou d'éducation. À mon avis, c'est quelque chose de très riche qu'ils ont fondé là. Et ils ont aussi amené des réflexions, permets-moi une réflexion philosophique, sur un thème central en éducation, c'est celui de l'autorité. Alors, on a le sentiment qu'évidemment, c'est impossible d'éduquer sans autorité des jeunes enfants, ils apprennent l'autorité. Mais quelle autorité, comment justifie-t-elle? Typiquement, dans le mode d'éducation traditionnel, celui de l'État, l'instituteur, pour parler comme les Français, incarne l'autorité de l'État, il la reproduit et applique un programme décidé par l'État, et ainsi de suite. Les anarchistes sont très vite méfiés de ça, non sans raison, et ils ont voulu repenser la question, non seulement de l'éducation, mais de la manière dont on la prodigue et l'autorité qui la prodigue. J'ai toujours beaucoup aimé la formule de Kropotkin, je pense, l'abolition progressive de l'autorité sur l'autel de la liberté. J'aime beaucoup cette idée-là. On ne peut pas le faire d'un coup, mais il faut le viser. Il faut l'avoir en tête. Donc, c'est un premier aspect par lequel les anarchistes sont importants. Et ils ont aussi ouvert deux avenues au moins. Il y en aurait beaucoup à dire. Une première avenue, c'est l'éducation permanente, l'éducation des adultes. Moi, quand je viens en France, je suis très, très ému quand je vois ces immenses et beaux bâtiments sur lesquels c'est écrit « Bourse du travail ». Je suis profondément ému devant ça. Parce que là, il y avait quelque chose de gigantesque qui était en train de se faire, hein, de donner à l'ouvrier la science de son malheur, disait Pelloutier, enseigner, puis préparer dès aujourd'hui les prémices de la société de demain. C'était quelque chose de magnifique. Et ça, c'est l'éducation aux adultes. Ils ont pensé à ça déjà. Ça m'apparaît magnifique. Et une autre chose aussi, c'est qu'ils ont placer les prémices de ce qui va devenir très vite la possibilité d'éduquer en se passant de l'État, à la maison. Alors, l'éducation à domicile, ou ce qu'on appelle aussi aux États-Unis, parfois c'est différent, le unschooling, la non-scolarisation, les anarchistes ont mis sur pied les bases de ce qui va donner naissance à ça. Donc, leur pensée a été extrêmement importante sur, encore une fois, ce qui m'apparaît être une des institutions les plus importantes d'une société.
Alors, je me demande si on ne va pas essayer de trouver un endroit plus à l'abri. Comme à chaque fois, vous pourrez retrouver une bibliographie liée à cet épisode sur le site histoiredalepodcast.fr. Bon, on est rentré se mettre à l'abri parce qu'il commençait à pleuvoir. Je ne sais pas si ça s'entendait au micro. On était sur l'éducation et justement, je trouvais qu'il y a... Enfin, tu as posé cette question de rapport à l'autorité et je me disais que c'était peut-être la difficulté la plus centrale et donc la plus intéressante pour la pensée écologiste, anarchiste, c'est marrant comme lapsus, de savoir justement quand est-ce qu'on définit le niveau d'autorité, jusqu'où on va, comment on l'explique aux enfants. Enfin voilà, j'imagine que c'est vraiment là qu'on est, pas dans une contradiction, mais en tout cas dans un chemin de réflexion le plus complexe.
Ce que je voudrais dire d'abord, c'est qu'il n'y a pas de recette. je pense, là-dessus. Ce n'est pas une chose à laquelle on peut répondre en disant à 7 ans et demi, on peut commencer à faire telle ou telle chose, ou à 9 ans, telle ou telle autre. Je pense que ça demande... Tu sais, les anciens, je vais avoir l'air d'étaler des choses. Là, comme, moi, j'aime beaucoup Aristote, puis les anciens parlaient beaucoup de prudence, c'est la prudence, le juste milieu, faire attention aux circonstances. Je pense qu'on est là, dans une situation comme celle-là. Il faut être conscient que l'autorité peut être dommageable. Il faut être conscient que parfois, il est nécessaire de l'utiliser. Comment l'utiliser de manière raisonnable? Il s'agit de faire attention. Il y a toutes sortes de cas qui sont passés dans l'histoire des idées anarchistes en éducation ou proches des idées anarchistes, où des gens ont eu le sentiment que ça n'allait pas. Puis c'est discutable. Hein? Je donne un exemple, si vous me permettez. Moi, j'aime beaucoup Bertrand Russell, qui est très proche des anarchistes, le philosophe Bertrand Russell anglais. Et Russell, il a fondé une école lui-même à une certaine époque de sa vie. Et il refusait, et non sans raison, certaines inspirations anarchistes qu'on retrouvait dans Summerhill, le groupe, une école alternative anglaise. Ouais, parce qu'il pensait qu'on n'allait pas assez loin dans le respect d'une forme d'autorité nécessaire pour la transmission des savoirs. C'est une vaste question, hein. Mais encore une fois, je ne veux pas faire semblant que je peux la résoudre. Ça dépend des circonstances, ça dépend des enfants, ça dépend. Mais je pense que ça exige de nous, c'est d'abord se rappeler que l'autorité peut être dommageable. Par contre, elle est aussi nécessaire. Et le but qu'on a, c'est de former un être libre en lui transmettant des savoirs. Vaste programme.
Et j'imagine, enfin, moi, j'ai l'impression que c'est là que s'incarne le mieux la philosophie anarchiste. C'est cette idée que on n'a pas de solution a priori, qu'il faut expérimenter, il faut que l'expérimentation nourrisse la théorie qui elle-même va et ainsi de suite. Quoi.
Là aussi, il y a des grands débats à voir dans la pensée anarchiste actuelle, mais moi, je pense que ce que tu viens de décrire définit assez bien une perspective rationaliste sur des questions sociales. Ça consiste à dire, c'est complexe, il n'y a pas de solution simple, testons des choses, voyons si ça marche, recommençons, essayons-le et ajustons nos solutions au fur et à mesure que les échecs se présentent ou que les réussites se présentent. Je pense que c'est la solution sage sur ces questions-là. Les anarchistes ont souvent prôné ça. En économie, on y reviendra tantôt, là, avec l'autogestion, les expériences d'autogestion. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui se passait. Même chose en éducation.
Alors là, moi, j'ai l'impression d'être enfermé à un endroit, c'est-à-dire que j'imagine pas bien comment on peut faire autrement que cette pensée rationaliste, ça serait quoi les autres manières de voir les choses?
Une autre manière de voir les choses serait une forme de dogmatisme. C'est de dogmatisme qui dit c'est ça qu'il faut faire, puis importe ce qui arrive, on continue à faire cette chose-là. Ce qui se passe parfois en économie, dans nos sociétés, c'est exactement ça. Hein. Il y a peut-être des limites au libre marché, disons, sur certaines questions, mais les décideurs font comme s'il n'y en avait pas. Puis quand des graves problèmes se présentent, on donne des subventions aux entreprises pour corriger les défauts qu'il y a eu, puis on fait semblant que tout va bien. Il y a des formes de dogmatisme intellectuel qui sont dangereuses pour ça. Il y a aussi, mais on y reviendra, moi, à mon avis, il y a des formes de pensée qui prend une forme d'absolutisme relativiste. Ça a l'air drôle comme formule, mais dans le postmodernisme, on trouve ça. Dans la pensée postmoderne actuelle, qui imprègne parfois certains courants du mode anarchiste, on retrouve ce genre d'idées-là qui, à mon avis, sont dangereuses et pernicieuses pour le progrès des idées tout court et des idéaux anarchistes aussi.
Alors, je veux bien que tu développes un peu, parce que là, il y avait trois mots un peu compliqués dans la même phrase.
Ouais. Postmodernisme, on reviendra là-dessus si vous le voulez, mais je consacre je consacre une section du livre à ça. Écoutez, ça, c'est ma position en moi, je l'ai dit tantôt, je suis Normand Baillargeon, un philosophe de l'éducation de tendance analytique, rationaliste. Je vais écrire un prochain que sais-je sur Bertrand Russell, qui est le philosophe qui a créé la tradition analytique. Donc, je me sens très proche de ces gens-là qui sont des rationalistes. Et pour aller très, très vite, si tu permets, hein, parce que c'est des débats complexes, on pourrait dire, assez justement, que depuis le siècle des Lumières, il y a des idéaux qu'on appelle souvent les idéaux des Lumières ou les idéaux rationalistes ou les idéaux libéraux, qui irriguent une bonne part de la pensée et de l'action des sociétés modernes. Ces idéaux-là reposent sur l'idée que la raison est importante, la science est importante, les expérimentations sont importantes, les remises en question sont importantes, la liberté d'expression est importante, la liberté académique est importante, les débats d'idées sont importants, et ainsi de suite. Ça suppose qu'il y a des idéaux qui existent et qui sont atteignables. L'idéal du vrai, l'idéal du beau, l'idéal du juste. On ne les connaît pas, on ne les a pas atteints encore, mais ils sont là, puis on vise ça. À partir des années 60, notamment en France, s'est développé un courant de pensée qui tend à rejeter, nier ces idéaux-là. Ce courant de pensée-là, on l'appelle postmoderne. le postmodernisme. Parmi les auteurs qui ont beaucoup marqué ce mouvement-là, il y a certainement Michel Foucault, Jacques Derrida et quelques autres. Au sein de l'anarchisme, il y a un courant qui est férocement opposé à ça. Ça remonte à très loin, ça remonte à Kropotkin, par exemple. Kropotkin, qui est un scientifique, est férocement, aurait été férocement opposé à ces tendances d'idées-là et était opposé à ce qui les précédait dans le courant anarchiste. Aujourd'hui, à notre époque, le même phénomène s'est rejoué. Alors, quelqu'un comme Chomsky, par exemple, représente un idéal des Lumières, un idéal universaliste. Chomsky définit l'anarchisme, on peut débattre de tout ça, mais il définit l'anarchisme comme une forme extrême de libéralisme. Tu vois, les anarchistes sont des libéraux d'extrême-gauche. À côté de ça, vous avez quelqu'un comme Michel Foucault, que je citais tantôt, qui est plutôt un postmoderniste et qui remet en question à la fois les idéaux visés par la tradition, par les Lumières, en disant que ce sont des illusions, et qui remet en question les moyens par lesquels on prétend les atteindre, et tout ça a des conséquences sur la manière d'agir qu'on peut avoir. Dans le livre, je consacre une section au débat célèbre en 1971, aux Pays-Bas de mémoire, entre Foucault et Chomsky, où on voit clairement apparaître ces oppositions-là. Je pense qu'en ce moment, l'anarchisme, comme mouvement d'idées, puis comme mouvement d'action, va avoir à se positionner sur ces débats-là.
Mais parce que, en fait, le postmodernisme vient questionner qu'est-ce qui est juste, et est-ce qu'il y a un juste qui existe en soi, quoi, c'est
ouais,
ça?
Oui, c'est ça, oui. Disons que les idéaux que visaient les siècles des Lumières, avec tous les défauts qu'il y avait dans cette pensée-là aussi, il ne s'agit pas de le nier, mais ces idéaux-là sont remis en question. Et ce qu'on a en lieu et place, ce sont des résultantes de structures de pouvoir qui s'opposent entre dominants et dominés. Tu vois?
Non.
Oui, le monde est largement compris comme étant des luttes entre dominants et dominés sur une structure abstraite, très abstraite. Et ce qu'on adopte provisoirement comme étant le juste est le résultat de cette victoire-là. Et c'est tout. Il n'y a pas d'autre chose que cette... Dans le débat entre Foucault et Chomsky, ça apparaît clairement. Il y a un moment donné où Foucault dit quelque chose comme « Je me bats pour abattre la structure sociale dans laquelle je me trouve en ce moment. » D'accord? C'est pas parce qu'elle est injuste que je me bats pour l'abattre. C'est parce qu'elle est là, puis elle est présente, et puis il faut la combattre. Après ça, il y en aura une autre, et on la combattra aussi. Chomsky répond « Attention, non. Si je pensais que le combat que je mène en faveur du changement social aboutirait à quelque chose de pire, je cesserais ce combat-là. » Si je reconnais, comme dit-il à Foucault, vous devriez le faire, il existe un droit international en ce moment. Il est imparfait, sans l'ombre d'un doute. Mais il permet aussi d'avoir des victoires. Ces victoires-là sont en faveur du plus juste, et je veux les mener, et je veux les combattre. Et vous comprenez, il y a une grande différence entre deux perspectives philosophiques qui sont celles de la modernité ou du libéralisme classique ou du siècle des Lumières. Moi, je préfère dire le siècle des Lumières. Et le postmodernisme actuel. Et ça traverse aussi, en ce moment, le mouvement anarchiste.
Je comprends mieux. Revenons à nos permanences.
Une chose, je voulais dire, si tu me permets, je voudrais dire, un des textes fondamentaux de la pensée postmoderne est un texte signé par Jean-François Lyotard. Et ce texte-là s'appelle « La condition postmoderne ». Okay. Et notamment, ce texte-là déploie en grande partie les... Il n'y a pas de vérité, il y a juste des structures de performativité, il y a juste des structures de pouvoir. C'est la fin, dit-il, des méta-récits, comme le bien, le juste, etc. Mais ce qui est amusant, et ça nous ramène à notre discussion sur l'éducation, c'est que ce texte-là, paru en 1979, était une commande, croyez-le ou non, du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Science du Québec.
Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit, je pense, arriver dans les débats politiques, où en fait, il n'y a plus de vérité, il y a des opinions. Maintenant, c'est que des oppositions d'opinions, quoi.
C'est important, ça aussi, de souligner ça. C'est-à-dire que, et évidemment, encore une fois, on pourrait très rapidement simplifier ces questions-là, puis donner l'illusion que tout est simple, et c'est pas le cas, hein, c'est compliqué. Et une des choses qui joue, en plus du postmodernisme dont j'ai parlé, qui est très certainement présent dans le monde des idées un peu partout et qui circule, il y a aussi cet étrange phénomène qui joue depuis une trentaine ou une quarantaine d'années, des réseaux sociaux, d'Internet, des groupes de discussion sur les réseaux sociaux, de YouTube, de X, comme on l'appelle aujourd'hui, plutôt que Tweet. Là. Ça aussi a joué un rôle important dans la perversion de ce qu'un philosophe de l'éducation, John Dewey, appelait la conversation démocratique, c'est-à-dire l'art de débattre entre nous de certains sujets. On a l'impression aujourd'hui, très rapidement, hein, que les gens sont confinés dans des groupes, dans des groupes auxquels ils appartiennent. Et si tu réfléchis un peu à... C'est bien connu, ça, les biais de confirmation, par exemple. Le fait de toujours se retrouver dans une bulle où on entend toujours la même chose. On finit par penser que ceux qui ne pensent pas comme nous ont des défauts moraux. Ce sont des gens... Et là, cette structure de domination dominée est renforcée, encore une fois. Et on a l'impression qu'on parle moins des idées que l'on parle de la valeur morale de ce que disent les gens. D'une certaine manière, le bien-pensé a cédé la place à la bien-pensance et à l'étalage de vertu. Et ça, je trouve ça dommageable, parce qu'on a... Si, encore une fois, les idées anarchistes, qui sont complexes, qui sont vastes, et qui... si on veut qu'elles avancent, ces idées-là, il faut les présenter, il faut les débattre, il faut discuter avec les gens, il faut essayer de les convaincre, il faut... Bon.
Ouais. Oui, et puis j'imagine que le bien-pensé vient souvent... des gens qui sont bien éduqués, qui ont le pouvoir, et donc là, on se retrouve complètement piégé par qui dicte la musique, quoi.
Ouais, ouais. C'est un thème qui était cher aux anarchistes de tout temps, c'est de dire que les classes sociales qui ont bénéficié de l'organisation de la société, notamment sur le plan des idées et sur le plan intellectuel, se portent ensuite à la défense de ce système-là qui les a privilégiés de cette manière-là. C'est un fait, malheureux.
Oui, c'est sûr. En tout cas, ça se vérifie souvent. Est-ce que... J'ai pas forcément envie de passer non, tout en revue, sûr. Parce non, que là, autrement, ça... Voilà, c'est trop long. Mais oui, c'est ça. Et puis, comme ça, vous aurez aussi un petit peu de travail à faire, quand même. Dans les permanents, j'ai plutôt envie d'aller sur l'économie parce que je trouve que c'est pas forcément quelque chose qu'on met en lumière très souvent dans la pensée anarchiste et qui me semble quand même que c'est quelque chose justement qui a un lien avec l'actualité parce que par exemple le mouvement des coopératives, moi je vois en France c'est vraiment quelque chose de vraiment important. Et ben voilà, c'est encore quelque chose que les anarchistes ont inventé. Enfin bon, ça sert à rien de mettre un tampon inventé par les anarchistes, mais quand même.
Je suis content, je t'avoue, que tu insistes là-dessus, parce que avec l'éducation, pour moi, c'est peut-être même le thème le plus important dans le livre, l'économie. C'est vrai que les anarchistes sont à la source de beaucoup d'idées qui restent présentes aujourd'hui. Et là, j'aurais plusieurs choses à dire. La première, c'est évidemment si on adopte comme perspective ce que disait Chomsky tout à l'heure, l'idée que des formes illégitimes d'autorité ne peuvent pas s'imposer aux individus. On regarde le fonctionnement d'une entreprise ou capitaliste où en haut, tu as les chefs, les dominants, qui sont très, très bien payés pour donner des ordres à ceux en bas qui obéissent et qui sont beaucoup moins bien payés, qui se font virer à la première occasion. Une des premières choses qu'on se dit, c'est que ça ne fonctionne pas, ça, du point de vue anarchiste. On ne peut pas avoir une mode d'organisation comme celui-là. Mais on doit aussi se demander, ah, très bien, mais qu'est-ce que vous mettez à la place? Et là, il me semble, moi j'ai toujours été très attaché au mouvement anarchiste, entre autres pour ça, c'est qu'ils ne se sont pas contentés de dire « ça n'a pas de bon sens », ils se sont demandé comment on peut remplacer ça, par quoi on peut le remplacer. D'où des choses comme l'autogestion, l'organisation différente du travail, les sociétés d'un genre différent, les coopératives. Ils ont très vite imaginé tout ça. Encore une fois, les bourses du travail disaient ça. Et ils ne faisaient pas rien que dire ça. Hein. Je trouve ça important de le rappeler aujourd'hui, où parfois le militantisme manque des choses à ce propos-là. Ils disaient qu'il faut faire dès à présent donner une idée de ce qui s'en vient plus tard. C'était assez remarquable. Hein. L'entraide va être présente, l'organisation différente. Vous allez avoir un exemple concret de choses qu'on peut faire. Ça, je trouvais ça remarquable. Alors donc, il y a eu cette idée-là. Elle a été présente dès le 19e siècle. Les anarchistes portent ça, portent des idéaux comme ceux-là. Et ils reviennent aujourd'hui, ces idées-là, et je trouve ça remarquable de voir ça, de voir que des coopératives, on en parle de plus en plus, l'autogestion, on commence à en parler de plus en plus. Et une autre chose qui me frappe, si tu permets là-dessus aussi, c'est à quel point, et dans le livre, j'ai fait une bonne part à ça, parce que je trouvais ça important de le dire, il y a des exemples, mais ils sont peu connus. Alors, il y a Mondragon en Espagne. Comment se fait-il que peu de gens connaissent ça? Même, j'oserais le dire, des fois, parmi les anarchistes. C'est pas rien, le Mondragon. Deuxième guerre mondiale, un prêtre se présente aux Pays-Bas, qui voit que le village dans lequel il se trouve est complètement défait, ça va très mal, crée une espèce d'école pour former des gens. Et là, je passe les détails, mais petit à petit, ce mouvement-là se développe en un mouvement de coopérative qui devient aujourd'hui gigantesque. Je vais aller chercher les chiffres, tu permets? Avec toutes les réserves qui s'imposent sur ces données, on peut penser que le mouvement représente aujourd'hui 95 coopératives, 14 centres de recherche et de développement employant 80 000 personnes, dont 2 300 chercheurs à plein temps.
Ouais, c'est fou.
C'est absolument délirant. Comment se fait-il que tout le monde connaît McDonald's ou des choses comme ça, mais on ne connaît pas Mondragon? Et à travers, et ça aussi je tiens à le dire, puis je le rappelle dans le livre aussi, hein, c'est que Mondragon, c'est quelque chose d'exceptionnel, mais au sein d'une société capitaliste mondialisée, d'une puissance hors de l'ordinaire, qu'ils aient réussi à survivre, c'est extraordinaire. Et ils l'ont fait, évidemment, en faisant des compromis, en s'ajustant. C'est nécessaire. Mais on devrait... Je trouve hein, que le mouvement anarchiste et les gens qui sont sympathiques à ces idées-là devraient connaître ça et le faire savoir, le faire connaître, dire « respirons-nous de ça, voyons comment ça fonctionne ». Je dis n'importe quoi, mais des journaux de gauche dans nos pays, en France ou au Québec, devraient envoyer des journalistes à Mondragon faire des reportages. Comment vous avez fait? Où vous en êtes aujourd'hui? Comment ça marche? Qu'est-ce qui fait que ça marche pas? Puis on revient au Québec, on dit « essayons ça à tel endroit ». Au Québec, j'invente ou à peu près, là, mais dans telle région éloignée du centre du Québec, il y a une entreprise qui risque de fermé parce qu'on juge que c'est plus assez, c'est assez profitable et cette entreprise-là appartient à une multinationale qui est basée au Brésil ou que sais-je encore. Pourquoi on ne dirait pas, on donne la chance, là, de tenter une expérience d'autogestion? Ça serait une incarnation concrète des idéaux que je vise. Et donc ça, c'est en économie. Puis une autre chose que j'évoque dans le... Si je parle trop, tu me le diras, mais c'est une autre chose que j'évoque dans le livre aussi, c'est l'éco-part, l'économie participaliste. Alors ça, c'est un économiste, c'est un militant proche de Chomsky, en fait, Michael Albert, qui est très proche de Chomsky. Moi, j'ai beaucoup écrit sur eux. Eux, ils ont imaginé un modèle économique. Ils ont énuméré les valeurs qu'ils souhaitaient respecter, les institutions avec lesquelles ils font ça. C'est très, très proche de l'autogestion. Ça se veut adapter aujourd'hui. Et il y a des endroits où on essaie de faire fonctionner ce modèle-là. Et ce que je trouve intéressant aussi, si tu me permets de le dire, c'est qu'on donne à voir dès aujourd'hui ce qu'on voudrait voir arriver plus tard. On commence à l'incarner. On dit, regardez, c'est possible. C'est inspirant, c'est attrayant, ça. Et c'est ce qu'il faut faire. Je pense que le militantisme doit faire ça. Michael Albert avait à peu près cette formule-là, là, en anglais, je vais traduire en français. Ne nous dites pas seulement ce contre quoi vous êtes. Dites-nous en faveur de quoi vous êtes concrètement. Dites-nous positivement les choses que vous voulez faire advenir, puis donnez-nous des exemples. Parce que tout le monde sait à peu près contre quoi on est. Hein. La plupart des gens en ce moment aujourd'hui savent que les inégalités des sociétés dans lesquelles nous vivons sont inacceptables, sentent que la menace à l'environnement que produit le système économique dans lequel on vit et qui produit, là, le terme technique, c'est des externalités négatives. Hein. Vous le savez, c'est comme ça qu'on appelle la pollution et ainsi de suite. Tout le monde sait ça. Ce qu'on cherche, c'est quoi mettre à la place. Alors, en faveur de quoi êtes-vous? Puis avez-vous des exemples? Nous, on en a. Les anarchistes, on en a.
Bah, c'est tout à fait l'objectif de ce podcast. C'est ouvrir les imaginaires à toutes les personnes qui se disent « Ah non, mais là, on est dans une impasse. Là, c'est fini. Bon, voilà, perdu pour perdu. Partons aux Bahamas. » Alors, bon, j'aurais voulu rebondir sur Mondragon, parce que, mais bon, on va pas faire une heure là-dessus. Peut-être partons justement sur le deuxième gros bloc de ton livre qui est sur les questions des mutations et du renouvellement de la pensée anarchiste et qu'est-ce qui effectivement dans les récentes années ou au cours du mouvement a constitué des points de bascule philosophiques où il y a un moment il se passe quelque chose dans le monde des idées anarchistes où voilà, ça bouge.
Si vous aimez ce programme, n'hésitez pas à le soutenir sur Tipeee, TIPEE.
Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui... On a déjà parlé du postmodernisme. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui te semble le plus important entre la question du féminisme ou la question de la science. Qu'est-ce qui te semble le plus important des deux?
Bon, la science conduit au postmoderniste. Hein, le rapport à la science conduit au postmoderniste. Encore une fois, il y avait différents courants dans le mouvement anarchiste classique, mais un d'entre eux était représenté par Kropotkin, qui est un fameux scientifique d'une grande importance. Voyez, par exemple, le genre de débat qu'on peut avoir. Hein. Dans le monde des idées aujourd'hui, fait beaucoup, beaucoup débat un ensemble d'idées issues de la biologie pour lequel les êtres humains, comme toutes les autres espèces, ont leurs caractéristiques, et dans leur cas particulier, mentales, intellectuelles, fixées par la biologie. Et ces caractéristiques-là peuvent même être différentes selon le sexe, les gens ou les femmes ou les hommes. Ces idées qui peuvent faire scandale aujourd'hui là, sont portées en ce moment par un courant de pensée qu'on appelle la sociobiologie, un courant de pensée qu'on appelle la psychologie évolutionniste. Tu vois? Eh bien, juste pour donner un exemple des conflits ou des combats qu'il peut y avoir en ce moment parmi les gens de gauche, parmi les anarchistes, dans les années 70, pardonnez-moi si je me trompe un peu, on va inviter Noam Chomsky à venir dans une conférence où on va faire un débat critique sur la sociobiologie et le biologiste qui en est l'inventeur, il est mort récemment. Et Chomsky a la grande surprise de tout le monde. On s'attend à ce qu'il va se présenter là et qu'il va démolir la sociobiologie comme étant quelque chose d'épouvantable. Il va dire, le créateur de ces idées-là, l'ancêtre de tout ça, c'est Kropotkin. La sociobiologie, le créateur de ces idées-là, l'initiateur de ces idées-là, est Kropotkin, un anarchiste. Et on peut penser... Alors voyez-vous le genre de conflit ou de débat qui peut naître à partir de ces idées-là autour de l'idée de science? Je ne peux pas entrer dans le détail sur la... Mais il y a le débat entre le postmodernisme et les Lumières, ou le rationalisme, mais il y a le débat aussi sur la place de la science. Et aussi, il faut nuancer, parce que les anarchistes sont tout à fait capables, et ils le font souvent, Chomsky le premier, Russell aussi, qui était très proche des anarchistes, de reconnaître que la science, qui a amené des progrès immenses pour l'humanité, a aussi causé des dangers et des torts immenses qu'il faut reconnaître. Si ça vous amuse, je me permets de raconter. Je vous ai dit tantôt, je vais publier un que sais-je sur Bertrand Russell, qui est un philosophe pour lequel j'ai beaucoup d'estime. Je viens de publier une conférence qu'il avait donné en 1953 ou 54 sur l'impact de la science sur la société. Et Russell, en 54, très proche des anarchistes, dit d'abord, la science et ses retombées technologiques ont apporté énormément de bienfaits à l'humanité. Et il en cite un grand nombre. Et lui, il est né en 1872. Il rappelle que quand il est jeune, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de moyen de communication, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas d'avion, évidemment, tout le reste. Il reconnaît tout ça. Et je pense qu'on doit reconnaître tout ça aussi quand on est sérieux. Mais il dit aussi qu'il y a des dangers immenses. Et parmi les dangers qu'il cite, croyez-le ou non, il dit la façon dont on produit de l'agriculture là, pourrait avoir des torts immenses sur l'environnement. Faites attention. Et une autre chose qu'il nomme, qui est absolument fantastique, c'est qu'il dit il est possible que la science appartienne à des entreprises privées qui se l'approprient et qui la contrôlent. Pensez aujourd'hui aux GAFAM, etc. Il ne pouvait pas évidemment deviner les GAFAM, Russell, mais il voit tout ça, il voit ce danger-là. Donc, je pense que c'est important de reconnaître à la fois les avantages que ça peut apporter, de reconnaître les dangers. Et on ne peut pas agir correctement si on ne reconnaît pas les deux. Voilà donc sur la science que j'aurais à dire.
Et il ne parle pas de l'industrie atomique, enfin nucléaire.
C'est... Tout à fait. Bertrand Russell, évidemment, il en parle. Hein, tu as raison de le souligner. Tu sais, mon cher Bertrand Russell, il était né en 1872, il est mort en 1970. Wow. Et toutes les dernières années de sa vie, il se consacre comme militant, parce qu'il a été enfermé en prison pendant la Première Guerre mondiale pour pacifisme. Et il est de nouveau en prison, je pense qu'il a 91 ans, parce qu'il a organisé de la désobéissance civile contre l'armement nucléaire. Alors, il s'est battu contre le nucléaire toute sa vie. À la fin de sa vie, il était persuadé que c'était une des graves menaces à l'humanité. Et il en parle, évidemment, dans ce livre-là, en 54. Enfin, Hiroshima et Nagasaki sont pas très loin derrière lui. Hein. Et Russell, encore une fois, il a passé énormément de temps à se battre contre ça. Je me permets de dire, si vous permettez, je l'aime beaucoup, Bertrand Russell, mais... En 1955, je crois, il quitte New York et il s'en va voir Albert Einstein à l'hôpital. Einstein est très malade. Il va le voir pour lui demander de signer un texte qu'ils signeraient tous les deux à propos du nucléaire. Et il s'adresse à l'humanité et ils disent, le texte se termine, « Pensez à votre humanité, oubliez tout le reste pour lutter contre le nucléaire. » Quand il descend de l'avion à Londres, Russell apprend que Einstein est décédé. Mais il va apprendre peu de temps après qu'il a eu juste le temps de signer cette lettre-là avant de mourir, qui va devenir le manifeste Pugwash. Et le groupe Pugwash va gagner le prix Nobel de la paix en 1995, je crois. Ouais.
Tout à fait. En fait, j'ai un autre podcast sur le nucléaire. C'est pour ça que je...
Donc évidemment, tu connaissais tout ça. Hein? Pugwash, c'est ça. Oui.
Mais je voulais te l'entendre dire, parce D'accord. que tout le monde ne le connaît pas. Et puis, tout le monde n'écoute pas mes deux podcasts, donc... qui va bientôt passer sur Radio Libertaire. C'est marrant. Bon vraiment, la boucle est bouclée.
Puis on a dit la question nationale.
Ah oui, alors là, oui.
Oui, c'est pour un Québécois.
Oui, non, mais c'est intéressant. Alors, comme je l'ai quand même abordé, je suis obligé qu'on vienne y consacrer un moment. J'ai l'impression que la question féministe, c'est marrant, moi je l'aurais mis dans les permanences.
Ah, oui.
Parce que j'ai l'impression que c'est vraiment une question qui est là dès le début, que c'est les premières critiques qu'on fait à Proudhon en lui disant « Non mais Proudhon, c'est pas possible, ce que tu écris sur les femmes, c'est... Tu ne peux pas être libertaire si tu écris ça. » Enfin, j'ai l'impression que cette question-là d'émancipation de l'humanité passe forcément par l'émancipation des femmes et que les anarchistes, Voltairine de Cleyre, Emma Goldman, enfin, pléthore d'autrices, viennent poser la question et dire c'est pas juste parce qu'on change la société qu'on va résoudre la question des femmes. Donc, enfin, voilà, je pense que c'est important de venir développer cette idée quand même.
Oui, tout à fait. D'abord, tu as tout à fait raison de souligner qu'elle est très présente dans l'anarchisme classique, la question du féminisme. Proudhon, c'est quelqu'un d'admirable, Proudhon par ailleurs. Hein. Ça aussi, je trouve important de dire, on ne peut pas réduire Proudhon au fait qu'il a dit des choses horribles sur les femmes, dire rien dans sa pensée n'a de valeur. Non, il a apporté des choses importantes en éducation, en économie, etc. Donc, mais sur les femmes, il a, comme beaucoup de gens à son époque, dit beaucoup de conneries. Et c'est vrai, tu as raison de le souligner, hein, que les anarchistes, les femmes anarchistes, certains hommes aussi, mais les femmes anarchistes ont été extrêmement importantes pour la naissance du féminisme, au fond. Hein. Ma compagne et moi, là, on a édité les écrits de Voltairine de Clare, qu'on aime beaucoup et qui est quelqu'un pour nous d'extrêmement important. J'ai choisi de revenir sur elle plutôt qu'Emma Goldman. J'aurais pu prendre Emma Goldman aussi parce qu'elle est extrêmement importante aussi. Donc, les anarchistes classiques ont été importantes. Je fais un passage bref, là, j'insisterai pas là-dessus, je prononce probablement mal, mais les femmes libres en Espagne, mujeres libres, probablement mon espagnol est horrible, mais qui ont aussi fait des choses et qui comprenaient évidemment, et tu as raison de le souligner, hein, que la perspective anarchiste, revenant encore à Chomsky, là, on repère des structures de pouvoir, on demande qu'elles se légitiment, on les conteste si elles ne peuvent pas. Et bien, très rapidement, je pense, les femmes ont constaté que les structures de pouvoir dans lesquelles ils vivaient étaient indéfendables. Ils les ont donc constatées. Voltairine de Clare nous a toujours semblé quelqu'un d'extrêmement important là-dedans. Mais si je l'ai mis après, c'est qu'il s'est développé aussi. Tu sais, il y a eu différentes vagues dans le féminisme. Une première vague à obtenir des droits, une première vague élargir ses droits et devenir de plus en plus des citoyennes à part entière, et puis pas simplement le droit de vote, mais etc. Mais il y a aussi un anarcha-féminisme plus récemment qui s'est développé en disant « si on fait que ça, on va pas assez loin ». Et là, je pense qu'ils ont un point intéressant à dire, à savoir qu'il faut pousser plus loin que la simple revendication de droits juridiques ou de droits civiques ou de droits personnels pour faire advenir une réelle égalité entre les hommes et les femmes. Et aujourd'hui aussi, la question se pose à travers... Je rentrerai pas là-dedans parce que je me prétends pas expert de ça, mais toute la question du sexe, du genre, des queers et ainsi de suite. Et là, il y a un renouvellement de l'anarchisme qui est intéressant à suivre. Et c'est pourquoi je l'ai mis dans cette section-là. Voilà.
Okay. Parce que je me dis aussi que forcément, dans la pensée anarchiste, on ne peut pas juste se satisfaire des droits parce que qui dit droit dit État, ouais. Et donc il y a forcément un autre domaine de pensée qu'il faut explorer. Quoi.
D'où cet anarcha-féminisme qui se pose dans des termes nouveaux aujourd'hui à cause des raisons que j'ai dites, et ce qui fait que malgré le fait qu'effectivement la pensée anarchiste classique était riche du point de vue féministe, il y a quelque chose de nouveau qui se passe en ce moment. Je ne sais pas encore où ça va conduire, hein, puis il faut attendre pour voir, mais c'est intéressant.
Okay. Alors une autre question effectivement qui est très très intéressante, c'est la question de la nation. Parce qu'effectivement, le point de départ, quelque part, évident, c'est la critique de la nation. Parce que la nation, c'est l'État-nation, donc on va critiquer la nation. Mais en même temps, il y a un moment des questions qui apparaissent d'indépendance, d'émancipation de certains peuples, où on se dit, alors, on est perdu. Et j'ai l'impression que c'est Bakounine qui justement articule toutes ces notions-là et qui, moi, en tout cas, m'a permis d'avoir des notions plus claires.
Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un courant très, très fort et très important et en très grande partie juste au sein de l'anarchisme classique, porté par Rudolf Rocker, qui, à partir des prémices que tu as soulignées, fait une critique de l'idée de nationalisme. Et c'est impossible, je pense, de ne pas reconnaître la grande justesse de certains arguments qui sont déployés là. La nation est un outil façonné par l'État et mis à son service dans le but d'implanter chez les individus un certain nombre de croyances qui sont utiles à l'État et à sa propagation. On peut comprendre ça. Et on peut facilement dire, regardez, je dis n'importe quoi, là, mais vous lisez des manuels scolaires de tel pays en 1872, vous allez voir promu une certaine idée de la nation qui rend possible qu'une génération plus tard, ces jeunes-là iront à la guerre pour se faire tuer pour leur pays. Je caricature un peu, mais j'essaie d'expliquer ce que c'est ça. Donc, il y a une forme de propagande, d'endoctrinement qui se fait évidemment par l'école, sans aucun doute, Rocker le souligne, mais qui se fait aussi par des moyens plus subtils, hein, qu'on connaît aujourd'hui, si on réfléchit un peu. Le calendrier peut servir à ça. À travers le calendrier, on impose une certaine vision du monde, une certaine vision des choses, à travers des institutions, à travers, bon, etc. Et donc, cette critique forte du nationalisme portée par Rocker a été généralement prise très au sérieux au sein du mouvement anarchiste, et je pense qu'elle a encore aujourd'hui une grande portée. C'est quelque chose d'extrêmement juste et à quoi il faut faire très, très attention. Mais par ailleurs, je rappelle dans le livre aussi qu'au sein du mouvement anarchiste, il y a toujours eu des nuances qui ont été apportées à tout ça. On s'est tout le temps dit, attention, c'est pas parce que l'équivalence État-nation qui est portée par Rocard n'est pas toujours présente. On peut avoir des États sans nation, hein, on peut avoir des nations sans État. C'est pas très clair que c'est toujours le cas, qu'il y a une nation à l'intérieur d'un État, il peut y en avoir plus qu'une. Et donc, il y a eu une réflexion sur ces questions-là qui a apporté des nuances qui m'apparaissent importantes aujourd'hui. Le colonialisme a obligé à réfléchir à ces questions-là. Moi, j'ai été élevé en Afrique. Quand j'arrive en Afrique en 62, les pays africains viennent d'avoir leur indépendance et souhaitent s'affirmer comme nation, souhaitent s'affirmer comme peuple, alors qu'ils ont été déchiquetés par le colonialisme. Le nationalisme est-il aussi malsain là qu'il pourrait l'être dans les cas que j'ai cités plus haut? C'est pas évident que c'est le cas. Des penseurs anarchistes, c'est Bakounine, de mémoire, encore une fois, qui va dire il existe un nationalisme naturel. Les gens se regroupent, font un groupe ensemble, se correspondent, ont des valeurs communes, ont des moyens de communication, etc. Tout ça est sain, ça a existé. Mais évidemment, après, c'est remplacé par l'État-nation, comme on l'appelle, qui vient détruire tout ça et qui a les défauts que représente Rocard dans son livre. Mais est-ce qu'il ne peut pas exister aussi un nationalisme international, un nationalisme de l'humanité, un nationalisme où tous les êtres humains se reconnaîtraient dans quelque chose. Comment le faire advenir, pose-t-il la question. C'est pas évident non plus. Et après ça, il y a des formes de nationalisme différentes dans des pays où des nations ont le sentiment de ne pas encore exister. Alors là, ils vont vouloir se battre pour exister. Le Québec pourrait être un exemple de ça. Tu sais, au Québec, il y a un très fort courant nationaliste qui existe depuis des années. Je pense que d'une part, ça serait malvenu et injuste de dire que ce nationalisme-là est toujours dangereux, identitaire, malfaisant, horrible, etc. Bon, ça serait très bon aussi de demander, comme le font les anarchistes, que ce à quoi ils donnent naissance ne ressemblera pas à l'État-nation qui est contesté plus tard. Alors là, encore une fois, on revient à cette exigence d'avoir des analyses un peu plus subtiles, plus nuancées, qui reconnaissent que les problèmes sont complexes et... tout en reconnaissant la très grande justesse, dans tous les cas où elle s'applique, des analyses de Rocard, de dire qu'il y a aussi des formes de nationalisme auxquelles on peut peut-être faire sa place et pour lesquelles il est peut-être important d'agir.
Peut-être faudrait-il trouver un autre mot qui éviterait la confusion, mais bon, si on rajoute des mots, peut-être qu'on rajoute à la confusion. Alors j'ai eu quelque chose qui m'a manqué dans ton livre, par rapport justement à l'ordre moins le pouvoir, c'est cette question de l'éthique.
Okay.
C'est-à-dire qu'effectivement, dans l'ordre moins le pouvoir, tu viens faire vraiment une réflexion profonde, enfin en tout cas moi je l'ai trouvé comme ça, qui vient quelque part me dire que au-dessus de toutes ces formes diverses et variées de l'anarchisme, parce que comme on se pose des questions à un endroit, à un moment donné de l'histoire, ben on n'amène jamais les mêmes réponses, il y a peut-être quand même des invariants, mais qui ne sont pas de la permanence, comme on l'a dit tout à l'heure, dans le monde des idées, qui seraient peut-être un peu au-dessus, enfin je ne sais pas comment je les place, mais sur cette question de l'éthique et de la morale, alors est-ce que c'est un choix que tu as fait dans ce livre, parce que de toute façon tu ne pouvais pas faire un livre de 2000 pages, mais enfin voilà...
La collection que sais-je, ils ont des exigences très strictes, 124 pages, on ne dépasse pas ça, donc il y a des choses. Mais il y a quand même un mot là-dessus qui me semble intéressant dans le livre, je crois intéressant, c'est Kropotkin encore une fois. C'est la possibilité de reconnaître, en la nommant à travers des bases biologiques, ces universaux-là. Kropotkin, ce qui l'a rendu possible, c'est qu'on comprenne que l'éthique est des bases biologiques. Alors on appelle ça aujourd'hui en biologie l'altruisme de parentèle ou l'altruisme réciproque. Et je l'évoque dans le livre et je pense que c'est important de connaître ces choses-là. La thèse, c'est pas Kropotkin qui l'avance, mais ce qui met sur pied rend possible de penser l'éthique dans ces termes-là. L'éthique résulterait en partie de mécanismes biologiques chez les êtres humains qui fait que les êtres humains sont prédisposés à pratiquer un altruisme de parentèle. Ça veut dire un altruisme où on va défendre des gens qui ont les mêmes gènes que nous, et un altruisme réciproque par lequel on donne à quelqu'un qui est en mesure de donner lui aussi. OK? Et donc, c'est quelque chose, mais c'est ça pareil. Donc, les bases biologiques de l'éthique pourraient avoir été pensées de manière préfigurative par Kropotkin.
Et là, on imagine bien que l'altruisme de parentèle peut amener à des pensées politiques très loin de notre champ.
Oui, voilà. Mais ça ne s'applique en général qu'à nos enfants et à nos proches. Hein? C'est pas un altruisme qui s'applique à tout le monde. Là. C'est un altruisme qui s'applique à nos proches. Voilà.
Parce que j'avais noté des endroits de citation que j'ai trouvé vraiment intéressant sur cette question de l'éthique. Et oui, c'est vrai que moi, c'est un des mots, je pense, auxquels j'avais fait le moins attention avant de commencer à lire des textes anarchistes, c'est cette question de la dignité. C'est un concept qui n'était pas dans mon paysage, enfin auquel je ne faisais pas très très attention, et c'est pourtant, ça revient très très souvent, je trouve, dans les écrits. Pour toi, c'est quoi cette particularité de la dignité dans la pensée anarchiste ? Ouais, t'as 2 heures.
Moi, je suis de ceux qui pensent que l'anarchisme s'inscrit dans un courant long de la pensée humaine. Okay? Et donc, moi, je ne vois pas de spécificité de penser la dignité, mais je vois la spécificité de penser l'autre comme étant quelque part mon égal. Tu comprends? L'autre envers qui j'ai des devoirs parce qu'il est un être humain lui aussi, puis un égal. Nommons dignité, cette capacité-là, là, mais moi, je pense que la pensée éthique, tout au long de l'histoire de la pensée occidentale, disons, a eu ce genre de souci-là. C'est présent chez Aristote, c'est présent chez les utilitaristes, c'est présent chez Kant, c'est présent... Les anarchistes poursuivent ça comme ils poursuivent beaucoup d'autres choses aussi, mais la reconnaissance de l'obligation de considérer autrui, sa dignité, nommez-le si vous le voulez comme ça, mais son existence comme être humain est présente chez les anarchistes en effet, puis elle me semble assez présente aussi dans toute l'histoire de la pensée morale, la pensée éthique en Occident.
Ok. Oui, bah c'était un peu pour rebondir, mais c'était là, je vois, il y a un mot que tu cites de Malatesta, l'anarchiste italien, qui dit « L'anarchisme est né d'une révolte morale contre l'injustice sociale ».
J'aime beaucoup, c'est une très belle formule, encore une fois. Mais en même temps aussi, Malatesta dit ça, il a bien raison. Mais je pense que beaucoup de mouvements sociaux peuvent se réclamer également de ça. Hein. Quand les femmes, même si elles ne sont pas anarchistes, réclament le droit à l'avortement, elles sont en train de se réclamer de ça, d'une grandeur de l'être humain qu'on doit respecter. Et encore une fois, je pense que toutes les écoles, les théories éthiques importantes d'Aristote à nos jours, là, qui méritent notre attention, ont en quelque part porté cet idéal-là, c'est-à-dire d'agrandir le cercle de ce qu'on considère être un être humain qui mérite respect. Voilà. Les mouvements anticolonialistes ont fait ça aussi. Les mouvements aujourd'hui qui revendiquent les droits pour les minorités, les droits pour les homosexuels, les droits pour les lesbiennes font exactement la même chose. Et l'inspiration de tout ça, souvent, c'est très proche de ce qu'avaient les anarchistes au point de départ en disant « Je conteste des formes de cette forme d'autorité parce qu'elle est illégitime. »
C'est vrai. On en revient toujours à Noam Chomsky. Oui, moi, ça, c'est ça. Ça, j'ai trouvé que c'était... Enfin, moi, il y a une partie que j'adore. Ça, c'est Tolstoï.
Ah, oui.
Sentir, affirmer la dignité humaine, d'abord dans tout ce qui nous est propre, puis dans la personne du prochain, et cela sans retour d'égoïsme, comme sans considération aucune de divinité ou de communauté, voilà le droit. Être prêt, en toutes circonstances, à prendre, et au besoin, contre soi-même, la défense de cette dignité, voilà la justice. Moi, ce que j'aime, c'est le contre soi-même.
Ah oui, c'est ça. Oui, c'est effectivement ça, beau. Ouais. Être en mesure de se sacrifier aussi, ce soi-même, pour faire ça, je pense que c'est très juste. Puis, encore une fois, je pense que dans l'éthique classique, c'est assez présent. Dans l'éthique religieuse, c'est présent aussi, ça. Chez Tolstoï, qui est proche, qui est croyant, d'une certaine manière. Hein. Et ça me permet de dire aussi, si tu me permets, aussi, à quel point je trouve qu'on ne fait pas suffisamment ça aujourd'hui. La nuance appellerait de reconnaître la diversité des courants au sein de l'anarchisme et de leur permettre de coexister, de débattre et de tu comprends? Je termine le livre là-dessus. Je ne sais pas si tu l'as remarqué, ce passage-là, en citant une lettre de Rocker, de mémoire, qui dit, dans les années 50, qu'il se désole de voir le mouvement anarchiste en train de s'écrouler, qui semble s'en aller nulle part. Il s'est trompé, évidemment, par la suite. On a vu que mai 68 et d'autres choses ont rendu possible une renaissance de l'anarchisme. Mais il se désole de voir que le mouvement anarchiste est comme divisé en chapelles, permets-moi l'expression, en églises, qui se parlent plus, qui s'engueulent les unes les autres, qui n'ont aucun respect pour lesquels insulter quelqu'un, ça suffit pour l'écarter, et ainsi de suite. Je pense que ça serait dommageable que ce soit le cas. En ce moment, l'anarchiste connaît un précieux renouveau. Il ne faudrait pas que ce soit les anarchistes qui soient responsables de le mettre à mort.
Bah oui, oui, c'est sûr que... Bah, de toute façon, c'est ce qui, j'imagine, le piège de toute pensée politique, c'est justement de devenir dogmatique. Oui. Et quand on devient dogmatique, l'autre a forcément tort, puisqu'il n'est pas du même dogme que moi. Eh bien, écoute, pour terminer, je voudrais que tu nous lises « Aux surprises » du Noam Chomsky. Qui se trouve, donne un peu quelque part la morale à toute cette histoire. Tiens, je veux bien que tu me le lises là, c'est cette partie-là.
Je veux croire que les êtres humains ont un instinct de liberté, qu'ils souhaitent véritablement avoir le contrôle de leurs affaires. qu'ils ne veulent être ni bousculés, ni opprimés, ni recevoir des ordres, et ainsi de suite. Et qu'ils n'aspirent à rien tant que de s'engager dans des activités qui ont du sens, comme dans du travail constructif, qu'ils sont en mesure de contrôler, ou à tout le moins de contrôler avec d'autres. Je ne connais aucune manière de prouver cela. Il s'agit essentiellement d'un espoir placé dans ce que nous sommes, un espoir au nom duquel on peut penser que, si les structures sociales se transforment suffisamment, ces aspects de la nature humaine auraient la possibilité de se manifester. Noam Chomsky.
Bon, je crois qu'on a tout dit là. Ouais. Merci Noam.
Je tiens à te remercier déjà pour le podcast. C'est très très bien préparé de ta part. Ça m'a fait grand plaisir. J'espère que ça va donner le goût à certaines personnes de se renseigner sur ce qu'est l'anarchisme, en se rappelant que moi, je ne prétends pas avoir la vérité sur ces questions-là. Elles sont vastes, elles sont complexes, mais il y a manière à réfléchir, puis à débattre et à agir avec ces idées-là.
Merci beaucoup, Normand, pour ton temps et à bientôt pour un nouvel épisode d'Histoire d'art.
Si vous aimez ce programme, n'hésitez pas à le soutenir sur Tipeee, T-I-P-E-E.
Revenons sur cette question d'écologie.
Page 29. Sur Reclus, une célèbre illustration dans L'homme et la terre montre un globe terrestre soutenu par deux mains humaines et porte la légende « L'homme et la nature prenant conscience d'elles-mêmes ». Je trouve ça fantastique.
Et ça, c'est une formule de Lisée Reclus?
Oui, c'est ça. Oui, c'est une formule de Lisée Reclus.
Le géographe.
J'ai un grand monsieur, puis tu vas faire un podcast sur l'écologie. Là. Murray Bookchin aussi, c'est quelque chose d'extrêmement précieux, hein, c'est quelque chose de brillant. Puis c'est quelqu'un aussi qui, un peu comme Mondragon ou l'économie participaliste, met sur pied des structures. Puis avec le municipaliste libertaire, il dit « voici ce qu'on peut faire, tentons de faire ça ». J'aime ça.
Merci, je le mettrai je sais pas où, peut-être à la fin, en post-scriptum.
Il y a besoin
qu'il y a fait dans le parti. Non, ça va, merci. À bientôt.
Les bourgeois détestent l'anarchie.
Les bourgeois, c'est comme les cochons.
Chacun avait de l'anarchie une idée tout à fait personnelle.
Mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente. D'accord, mais de mort lente.